RFI, minuit à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous d'une demi-heure consacré à l'actualité française.
Christophe Paget.
Le groupe pétrolier Total Energy tenait son assemblée générale ce vendredi dans le quartier de la Défense à Paris. Comme presque tous les ans, les militants de défense de l'environnement ont tenté de se faire entendre pour dénoncer la politique du groupe. Simon Roset nous en dira plus. Dans l'affaire Le Squarnex, cet ancien chirurgien accusé de plusieurs centaines de viols et d'agressions sexuelles, 20 ans de réclusion criminelle ont été requis devant la cour criminelle du Morbihan pour ce qui est la plus grande affaire pédocriminelle de France. Verdict le 28 mai, nous dira Laurence Théo. Strasbourg jumelé avec un camp palestinien, c'est ce que souhaite la maire écologiste Jeanne Barsekian, nous l'entendons dans ce journal. On parlera aussi du départ à la retraite de l'ancienne numéro 1 du tennis français, Elsa Jacquemot. Ce sera après Roland Garros.
24 heures en France.
Au 78e Festival international du film de Cannes, dans le sud de la France. On attend le palmarès et surtout la Palme d'Or. Ce sera samedi. Sophie Torlotin nous parlera des autres prix déjà remis et puis du dernier film des frères Darden qui a été présenté ce vendredi, ça s'appelle « Jeune mère ». Pour ce qui est du Conseil Santé, on s'intéressera au diabète, qui touche quand même 500 millions de personnes dans le monde.
RFI.
Total Energy, le groupe pétrolier, tenait son assemblée générale ce vendredi. Ça a été l'occasion, comme presque tous les ans, pour les militants de défense de l'environnement, de faire entendre leur voix et de dénoncer la politique du groupe. Une politique jugée très insuffisante, non seulement en matière de lutte contre le changement climatique, mais aussi pour ce qui est du respect des droits humains. Et cette année, les ONG ont été rejointes par le rapporteur spécial des Nations Unies en charge des défenseurs de l'environnement, Simon Roset.
L'Assemblée Générale de Total Energy se tenait dans le quartier d'affaires parisien de la Défense sous haute sécurité pour éviter les perturbations des militants de l'environnement opposés à la politique du groupe. Ces derniers se sont donc repliés au siège de la banque BNP Paribas. Une dizaine de militants d'Extinction Rebellion repoussés sans ménagement par la police alors qu'ils clamaient « on tape sur Total et ses partenaires ». Au centre des critiques, la stratégie du groupe pétrolier qui entend accroître ses investissements dans le gaz et le pétrole au détriment de la lutte contre le réchauffement climatique. Cette stratégie comprend notamment le projet ICOP en Ouganda et en Tanzanie, au centre de nombreuses accusations d'atteinte portées aux droits des opposants locaux à ce chantier colossal d'oléoduc. Accusations qui ont poussé Michel Forst, le rapporteur spécial des Nations Unies pour les défenseurs de l'environnement, à interpeller le groupe juste avant son assemblée générale.
Le sens de la démarche, c'est d'attirer l'attention à la fois de Total Energy, mais aussi des actionnaires sur des allégations que je reçois constamment de la part de défenseurs de l'environnement qui montrent que la situation n'est pas du tout maîtrisée sur le terrain. On a le sentiment que Total Energy ne prend pas la mesure du problème et ne répond pas réellement aux attentes.
Michel Forst qui réclame ainsi une véritable enquête sur place afin de prendre des mesures sérieuses pour protéger les défenseurs de l'environnement.
Simon Roset. Ils sont coupables, mais trop vieux et malades pour retourner en prison. La cour d'assises de Paris a prononcé ce vendredi soir les peines visant les papy braqueurs qui s'en étaient pris à Kim Kardashian, la célèbre vedette américaine de télé-réalité. En 2016, après l'avoir séquestrée, il s'était enfui avec 9 millions de dollars de butin. Et les peines prononcées ce soir sont assez peu sévères, a reconnu lui-même le président à la fin de son verdict. Dans le détail, 8 ans de prison, dont 3 fermes pour le principal organisateur, une peine confondue avec une autre, il ne retournera donc pas en prison. Et puis 7 ans, dont 2 fermes pour les 3 autres braqueurs. Là, la partie ferme est déjà couverte par la détention provisoire. Kim Kardashian s'est dite satisfaite du verdict et elle a précisé qu'elle voulait tourner la page. Pour ce qui est de l'affaire Le Squarnex, cet ancien chirurgien jugé depuis 3 mois pour des viols et des agressions sexuelles sur 299 victimes, dont une grande majorité de mineurs, on n'en est pas encore au verdict, mais au réquisitoire, 20 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté des 2/3 ont été requis ce vendredi devant la cour criminelle du Morbihan pour ce qui est la plus grande affaire pédocriminelle de France. Laurence Théo.
La peine maximale donc à l'encontre de Joël Le Squarnex, qui ne pourra pas bénéficier d'aménagement de peine avant d'avoir purgé les 2/3 de sa détention. L'avocat général a demandé également une mesure rare, pensée pour les criminels dangereux, la rétention de sûreté en raison du risque très élevé de récidive du pédocriminel. En clair, lorsqu'il aura effectué sa peine, l'ancien chirurgien sera placé dans un centre de soins. Joël Le Squarnex est accusé par 299 victimes d'avoir pendant 25 ans abusé de sa position de chirurgien pour agresser et violer ses patients, filles et garçons, sous couvert de gestes médicaux. L'accusé a reconnu la majeure partie des faits. Ce procès aura mis en lumière la difficulté des institutions médicales à réagir face aux violences sexuelles. Dans ses réquisitions, Stéphane Kellenberger a annoncé qu'il y aura une autre procédure, le Squarneck, concernant d'autres victimes potentielles. Dans une affaire d'une telle ampleur qui s'étend sur 25 ans et qui a eu lieu dans plusieurs départements, la justice n'a pas pu toutes les identifier.
Laurence Théo, le verdict est attendu le 28 mai, mercredi prochain. L'un des 55 hommes interpellés cette semaine dans le cadre d'une opération contre un réseau pédocriminel s'est défenestré ce matin. L'homme qui a été hospitalisé et qui est actuellement dans le coma devait comparaître cet après-midi devant le tribunal de Strasbourg pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Gérald Darmanin veut créer un groupe de travail sur la reconnaissance faciale. Actuellement, son usage est permis par la loi s'il s'agit d'analyser a posteriori des images déjà enregistrées. Il demeure illégal par contre pour identifier ou suivre en direct une personne. Mais début mai, le garde des Sceaux avait indiqué vouloir s'en servir pour lutter contre l'insécurité, dénonçant une paranoïa sur la technologie. La défenseure des droits Claire Hédon s'est, elle, dite opposée à la banalisation de la reconnaissance faciale.
24 heures en France.
Et on vous en parlait hier dans 24 heures en France. La maire de Strasbourg, dans l'Est, l'écologiste Jeanne Barseghian, annonce qu'elle veut jumeler sa ville avec le camp de réfugiés palestiniens d'Aïda, en soutien au peuple palestinien. Strasbourg, c'est aussi le symbole d'une ville qui a été déchirée, meurtrie, et qui a été le lieu de la réconciliation puis de la paix, a souligné Jeanne Barseghian, Sylvie Coffi, l'adjointe.
Ce camp d'Aïda est situé à 2 km au nord de Bethléem, en Cisjordanie. Des liens avec Strasbourg se sont noués depuis les années 2000, comme l'explique Jeanne Barseghian d'Europe Écologie Les Verts, la maire de Strasbourg.
Il faut quand même se représenter, hein. Ce camp, c'est 7000 personnes à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Il y a environ 2500 enfants qui s'y trouvent, qui n'ont aucune perspective, qui vivent dans des conditions extrêmement compliquées. Et moi, je pense qu'il est de notre devoir en tant que collectivité française que de pouvoir apporter notre aide à ces populations. Vous savez aussi la situation dramatique sur la bande de Gaza. Aujourd'hui, nos collectivités ne sont pas en mesure d'acheminer une aide humanitaire pour la population gazaoui du fait du blocage de l'aide humanitaire par les autorités israéliennes.
Et c'est aussi pour cela qu'elle a suspendu momentanément le jumelage avec la commune de Ramat Gan en Israël. Dans les prochains jours, une délégation du camp d'Aïda se rendra dans la capitale alsacienne. Ce projet de jumelage sera soumis au mois de juin au vote du conseil municipal.
Le gouvernement annonce qu'il va lancer une campagne de testing pour lutter contre les discriminations à l'embauche et ensuite légiférer en cas de besoin. Annonce faite par Aurore Berger, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes. À l'automne, un laboratoire de recherche va ainsi créer 3000 CV qui vont être envoyés à des offres d'emploi. Les 4 critères de discrimination retenus seront le prénom, le nom, l'adresse et le sexe. Les taxis en colère ont bloqué ce vendredi les accès à la gare de Lyon et à la gare du Nord à Paris. Ils protestent depuis le début de la semaine contre la concurrence des VTC et la nouvelle convention qui régit le transport des malades. Les taxis ont obtenu une rencontre ce samedi au ministère des Transports en présence du Premier ministre François Bayrou. Mais ce vendredi, le gouvernement a indiqué qu'il ne comptait pas faire machine arrière. RFI 19h08 à Brasilia. L'immense photographe franco-brésilien Sebastião Salgado est décédé à l'âge de 81 ans. Sebastião Salgado, connu pour ses grandes photos noir et blanc de conflits ou de la forêt amazonienne, l'Académie des Beaux-Arts française dont il était membre parle d'un grand témoin de la condition humaine et de l'état de la planète, du Rwanda au Guatemala, en passant par l'Indonésie et le Bangladesh. Le portrait de Sebastião Salgado, c'est avec Edmond Sadaka.
De la nature triomphante des forêts équatoriales aux tragédies humaines les plus terribles, Sebastião Salgado a tout vu et a tout montré. Pour lui, la consécration mondiale est venue en 1986 avec ses photos iconiques de la fourmilière humaine de la Serra Pelada au Brésil, la plus grande mine d'or à ciel ouvert du monde. Là-bas, il a côtoyé pendant 35 jours des orpailleurs recouverts de boue. Salgado travaillait presque exclusivement en noir et blanc. Il aimait les projets gigantesques qui s'étalaient sur plusieurs années. c'était en quelque sorte sa marque de fabrique, selon le photographe Jean-Christophe Béchet, auteur d'une trentaine d'ouvrages spécialisés sur la photographie.
Il a réinventé une forme de photojournaliste, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un seul reportage, il crée 40, 50, 60 reportages sur la même thématique. Donc en fait, il est passé à une échelle un peu planétaire du reportage avec des projets gigantesques.
Durant sa carrière, démarrée dans les années 70, Sébastien Salgado a également sublimé de magnifiques paysages, comme les rivières volantes d'Amazonie, des photos en forme de plaidoyer pour la préservation de l'environnement. C'était l'un de ses grands combats.
Cher Tennis, il est temps de te dire au revoir. C'est par ce préambule que Caroline Garcia a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux que le tournoi de Roland-Garros, qui débute ce dimanche, sera son dernier. L'ancienne numéro 1 française arrêtera en effet sa carrière dans les semaines à venir. Elle n'a pas donné de date précise. Une annonce qui a surpris le monde du tennis, même si celle qui fut numéro 4 mondial en 2017 et 2022 avait raconté son mal-être sur le circuit il y a quelques mois. Écoutez la réaction de la jeune joueuse tricolore de 21 ans, Elsa Jacquemot.
C'est dingue parce que Caro est lyonnaise, je suis lyonnaise. Caro a 10 ans exactement de plus que moi. Donc c'est vrai que ça m'a un peu surprise de voir que d'un côté c'est normal, mais qu'elle prend sa retraite comme ça. Donc Caro, c'est une joueuse juste, je suis admirative par son parcours. C'est une super gentille nana, enfin, elle est super cool, super gentille, elle est adorable. Caro, c'est une athlète de dingue, elle a rapporté beaucoup de choses à la France. C'est quelqu'un que je suis admirative, elle a une carrière de dingue, c'est quelqu'un qui m'inspire. J'aurais kiffé qu'elle continue un peu plus longtemps, parce que c'est vrai que moi je vais un peu dans le pro maintenant, mais je garde que des souvenirs positifs sur elle.
Elsa Jacquemot au micro d'Éric Mamrut. Caroline Garcia est aujourd'hui classée au 145e rang mondial. Elle a remporté 11 titres en simple, 8 en double, dont 2 fois Roland-Garros, ainsi que la Fed Cup. Au 78e Festival international du film de Cannes, dans le sud de la France. On attend le palmarès et surtout la Palme d'Or, ce sera samedi. Deux derniers films ont été présentés en compétition ce vendredi. D'abord Mastermind de l'américaine Kelly Reichardt, et puis le second, on vous en parle dans un instant. RFI minuit 11 à Cannes.
24 heures en France, Christophe Paget.
Ils sont en compétition à Cannes pour la 10e fois. Les Belges et frères Jean-Pierre et Luc Dardenne ont déjà récolté 2 palmes d'or. Ça ne les a pas empêchés de présenter ce vendredi leur nouveau long métrage, Jeune mère. Un film qui raconte la prise en charge d'adolescentes ou de très jeunes femmes s'apprêtant à accueillir un enfant ou dans certains cas à le faire adopter. Jean-Pierre et Luc Dardenne au micro de Sophie Torlotin.
T'entends ? Il bat vite, ça fait peur.
Je t'ai déjà dit, c'est normal chez les bébés.
Jean-Pierre Dardenne, bonjour.
Bonjour.
Et Luc Dardenne, bonjour.
Bonjour.
Comme son titre l'indique, votre dernier long métrage en date, Jeune mère, donc Jeune mère au pluriel, c'est un film choral. On suit 5 jeunes femmes soutenues, hébergées par une maison maternelle de Liège. Pourquoi ce choix est plutôt inhabituel, compte tenu de vos derniers films, de tresser ensemble ces 5 histoires et non pas une seule?
Parce que on était parti pour une seule, mais on n'était jamais allé dans une maison maternelle. Et nous sommes allés dans la maison maternelle que vous avez vue dans le film, parce que c'est là qu'on a tourné finalement. On a découvert, je dirais, une dizaine d'éducatrices, une psychologue, une directrice, rien que des femmes, et des jeunes mères avec leur bébé. Si on partait de ce lieu, de ces filles, voilà. Et donc c'est devenu un film choral, donc 5 jeunes mères. Comment est-ce qu'elles peuvent s'en sortir? On va essayer de raconter que oui.
Elles sont très différentes, ces 5 jeunes filles, mais ce qui les rassemble, c'est ce déterminisme social, en tout cas cette expérience, dans chaque cas, de la pauvreté.
C'est vrai que les filles qui sont là, ce sont des jeunes filles qui y a un déterminisme social et affectif. La vie peut aussi donner d'autres possibilités.
Pourquoi tu m'as abandonnée?
À quoi ça peut te servir de savoir ça?
J'en ai besoin.
Jean-Pierre et Luc Dardenne, est-ce que vous diriez que c'est des histoires de répétition aussi, familiale, mais aussi de réparation, en tout cas pour certaines d'entre elles, de ces jeunes mères?
C'est sûr qu'elles répètent des choses, notamment liées à leur propre mère. Donc, les jeunes mères qui ont un bébé répètent ce qu'elles ont vécu quand elles étaient enfants avec leur mère, qui peut-être, elle aussi, répète quelque chose. Et c'est de ça dont il faut se libérer.
Et vous les filmez non pas comme des victimes, mais moi j'ai presque le sentiment que vous les filmez comme des battantes, comme des guerrières.
Et c'est ce qu'on a essayé en tout cas. Ce sont des jeunes filles qui veulent plus ou moins consciemment sortir des déterminismes et du destin qui les écrase. Elles ne savent pas toujours qu'elles vont en sortir, mais c'est en se battant avec ce qui leur arrive, en refusant ce qui leur arrive, en parfois en abandonnant, en laissant tomber les bras aussi.
Jean-Pierre et Luc Dardenne, Jeune Mère est votre 13e long métrage et c'est le 10e qui a les honneurs de la compétition à Cannes. Et vous avez déjà tout gagné, 2 palmes d'or, différents grands prix, prix d'interprétation. Est-ce qu'il y a toujours cette même excitation? Est-ce qu'il y a toujours ce même projet? Pour un film, Cannes, c'est un coup de projecteur, j'imagine, unique.
Comme vous dites, vous imaginez bien, voilà. Et que même nous, si on y va pour la 10e fois en compétition, c'est chaque fois qu'un film différent. Donc pour le film, ce sera la première fois. Et pour les 5 jeunes filles qui seront là, ce sera la première fois. Donc ce sera aussi la première fois pour nous par procuration. Je pense que c'est comme chaque fois que vous recommencez quelque chose. Il n'y a jamais rien qui est acquis.
Le Festival de Cannes, c'est sportif. On est là, on arrive, les interviews, manger, interview, manger, ouais. Puis machine, les photos, le photocall. C'est tout un parcours de sportif, quoi. Je n'allais pas dire un parcours de combattant, je n'irais pas jusque là, mais ouais, mais c'est amusant à faire.
Jean-Pierre et Luc Dardenne, merci.
Merci à vous.
Merci.
C'est plus ma sœur. Je veux qu'il ait des parents qui l'aiment. Je veux plus connaître la misère, je veux m'en sortir.
Jean-Pierre et Luc Dardenne avec Sophie Torlotin et parallèlement à sa présentation au Festival de Cannes, Jeune Mère est sorti dans les salles françaises ce vendredi. Alors, ce vendredi, on l'a dit, c'était le dernier jour de diffusion des films en compétition de ce 78e festival. Le jury, présidé par l'actrice française, mais à la carrière internationale, Juliette Binoche, va se retirer dans une villa pour discuter des prix qui seront remis ce samedi. Cette année, pas de véritable favori, même si, évidemment, certains films reviennent plus que d'autres dans les conversations. Et certains d'entre eux ont déjà été récompensés par des prix en marge du festival. Pour nous en parler, après son interview des Frères Dardenne, on retrouve Sophie Torlotin.
Certains prix gravitent en périphérie du Festival de Cannes, mais font parler d'eux. Depuis 15 ans, la Queer Palm récompense un film abordant des thématiques LGBTQIA+, comme des personnages trans, des questionnements de genre ou des relations homosexuelles.
Vas-y toi, pourquoi faire? Arrête ton blabla là. C'est bon, je sais ce que c'est de pas s'assumer.
En attendant peut-être une place au palmarès ce soir, La petite dernière d'Avia Herzi, le récit d'initiation d'une jeune femme lesbienne et musulmane, remporte la Queer Palm. Autre prix déjà décerné, L'œil d'or du meilleur documentaire attribué à Imago, premier film tchétchène projeté à la semaine de la critique. Le réalisateur Denis Oumar Pitsaev.
Il y a des gens en ce moment, que ce soit à l'Ukraine, que ce soit au Soudan, que ce soit à Gaza, qui n'ont pas de cette chance. Toutes les vies valent, que ce soit une vie palestinienne, que ce soit une vie tchétchène, israélienne. Il faut qu'on reste humain et qu'on parle avec notre cœur. Je vous aime. Merci encore.
À Cannes, les animaux aussi sont à la fête. Le Grand Prix de la Palme Dog 2025 récompense à titre posthume Pipa, l'un des 2 acteurs canins du film Sirat projeté en compétition. L'actrice Jade Oukid lui rend hommage.
C'est ma petite chienne qui s'appelle Luba, qui est là, qui a été protagoniste avec moi dans le film et qui est décédée juste après le tournage. Pour moi, c'est un honneur d'être ici. Je voudrais vous remercier, Palme Dog et tout le monde. C'est très symbolique comme message qu'elle puisse avoir une reconnaissance. C'était une petite chaîne de cirque incroyable.
Allo, mejor estará por ahí.
Bonjour, je vais sair.
L'hallucinatoire et apocalyptique Sirat de l'espagnol Oliver Lax figure parmi les films les plus cités par les critiques comme devant figurer au palmarès, au moins autant qu'Un simple accident de Jafar Panahi ou Sentimental Value de Joachim Trier.
Qui a obtenu la Palme d'Or ?
Au jury, présidé par Juliette Binoche, d'en décider à l'issue d'une journée ce samedi de délibération à huis clos. Le Congolais Dieudo Amadi a aimé cette expérience inédite.
Je viens parfois sans savoir exactement ce que je vais regarder, même pas les noms du réalisateur, même pas les noms de l'équipe, parfois même pas les titres. Ce qui me passionne, c'est d'arriver justement sans a priori et d'être embarqué tout de suite dans une histoire que je n'attendais pas. Et traverser, comprendre, écouter, sentir, ressentir, ça fait partie des privilèges justement d'être juré pour découvrir tous ces types de films.
Verdict ce soir et un palmarès à suivre sur RFI à 18h, temps universel. Sophie Torlotin, Victor Hull, Cannes, RFI.
Oui, ce soir car nous sommes déjà samedi, il est minuit 19 à Cannes.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux.
RFI 10h19 à Wallis et Futuna.
Le journal des Outre-mer.
Habiter sous les tropiques ne présente pas que des avantages. Confère la situation des habitants de Wallis et Futuna privés de fret depuis plusieurs mois. Benoît Ferrand, bonsoir.
Bonsoir. La compagnie Air Calais, autrement dit Air Calédonie International, a en effet réduit le nombre de ses vols entre la Tontouta et Matautu, avec une priorité donnée au transport de passagers, ce que dénonce le président de l'association des usagers d'Air Calais, Francis Allary. Il est au micro de la première Wallis et Futuna.
Air Calais a donc décidé de mettre seulement deux vols à destination de Wallis, au
le
départ
lundi
de
et le samedi.
Seulement, il s'est avéré rapidement que les deux vols ne permettent pas de transporter la totalité des passagers et du fret. Donc Air Calais a choisi l'option passager, charge un maximum de passagers et il n'y a plus de place pour le fret. C'est la raison pour laquelle la compagnie Air Calais s'est trouvée avec un stock de fret important à Tontouta et, pour résoudre le problème, a envoyé aux opérateurs au mois de décembre et au mois de mars une note qui indique que les réservations de frais ne seront acceptées que si elles concernent les urgences médicales ou les urgences agréées pour les besoins du territoire. En résumé, les colis postaux ou le fret postal normal n'étaient plus acceptés. Pour tout vous dire, nous n'avons pas de réponse. Et à mon avis, il faut répondre oui. Je pense que les Wallisiens qui attendent les courriers, les colis, etc., l'attendent.
Une question maintenant, comment imaginer l'île de la Réunion sans ses champs de canne à sucre? Depuis plus de 200 ans, la canne est devenue l'image même du département de l'océan Indien, une image d'Épinal dont on se demande pourtant si elle résistera à une autre garance ou à une autre sécheresse. Reportage Jonathan Évrard.
Dégoûté. Si on va subir ça encore l'année prochaine, je pense que je vais mettre la clé sur la porte.
Inquiétude et fatalisme. Sur sa vingtaine d'hectares de canne, entre Sainte-Suzanne et Saint-André, Paul Téchère compte près de 60% de pertes en tonnage. En y ajoutant la baisse importante de la richesse en sucre redoutée pour cette saison 2025, il table sur un manque à gagner de plus de 40 000 euros.
Il faudra payer le bail fin d'année. Je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir payer les propriétaires cette année. J'aimerais que le fond de caisse que j'avais chez moi, petite monnaie que j'avais, pouvoir remettre un peu d'engrais dans la canne. Beaucoup d'inquiétude pour voir comment est-ce qu'on va démarrer la campagne sucrière déjà. Est-ce qu'elle va démarrer au mois de juillet? Si ça va démarrer au mois d'août, la canne n'est pas encore bien mûre quand même.
Alors que les indemnités promises par l'État tardent à être versées, les planteurs en appellent également aux industriels. Olivier Fontaine, le président de la Chambre d'agriculture, réclame la prise en compte de ces conditions exceptionnelles.
Aujourd'hui, la majorité des planteurs vont perdre plus de 50% de canne en tonnage, mais la richesse aussi. Très peu de sucre à l'intérieur des cannes. La canne est cassée, la canne est couchée. On ne sait pas comment faire pour récolter cette canne, et notamment en termes de prix. Comment ça va se passer?
Une campagne sucrière qui s'annonce catastrophique, et ce pour la quatrième année consécutive, et déjà la crainte aussi concernant les répercussions sur la saison 2026.
Lentement, mais sûrement, le projet Neoline, autrement dit le transport de marchandises sur l'océan Atlantique par cargo à voile, eh bien ce projet prend forme. La compagnie a récemment annoncé la conclusion d'un accord avec la société Alliance Europe pour toutes les marchandises entrant ou sortant de Saint-Pierre et Miquelon. Hachim Saïd.
Pour assurer sa ligne directe en mer Atlantique depuis la France hexagonale vers Saint-Pierre-et-Miquelon, l'armateur Neoline choisit de s'appuyer sur l'expertise d'Alliance Europe, une compagnie locale, pour profiter de sa connaissance du marché. Chloé Hélène, adjointe de direction Alliance Europe.
C'est une ligne directe entre la France hexagonale et Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est une proposition logistique qui est différente et complémentaire. Nous pouvons transporter des conteneurs complets, 20 pieds, 40 pieds, les conteneurs réfrigérés et également, reefer, fret roulant, c'est-à-dire véhicule, engin, tout ce qui est également colis en propre, une palette par exemple, mais aussi le fret hors gabarit, donc tout ce qui dépasse les dimensions standards et qui de ce fait n'est pas conteneurisable.
Ce service de ligne directe maritime va permettre de réduire les délais d'approvisionnement de marchandises et répond aux attentes de la population. François Zanutini, président de Neoline.
Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il n'y a pas eu de liaison directe entre l'Hexagone et l'archipel, et du coup cette liaison directe elle permet quand même de réduire à 8 jours le temps de transit contre 15 à 20 aujourd'hui. Ça facilite aussi le transport notamment des marchandises réfrigérées parce qu'il n'y a pas la rupture de charge à Halifax, donc il y a beaucoup, beaucoup moins de risques pour ces marchandises-là. À terme, dans la vision de ligne où il y a deux navires, ce qui est notre objectif avec un départ tous les 15 jours, ce qu'on espère, c'est bien de pouvoir servir l'ensemble du fret entre l'Hexagone et l'archipel. C'est vraiment l'objectif. On sait qu'avec le premier navire, on n'a pas la fréquence pour, mais avec le deuxième, c'est ce qu'on va viser.
Le navire doté de 6 cabines doubles de 12 passagers pourra accueillir des voyageurs. Il entamera une série de tests en mer avant sa première rotation vers Saint-Pierre et Miquelon, prévue cet été.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Benoît Ferrand. Bon week-end à vous.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Et ce soir, on s'intéresse au diabète, une maladie dont souffrent pas moins de 500 millions d'adultes dans le monde. Caroline Paré, son invitée, nous en parle.
Docteur Marine Albron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diabétologue dans le service de diabétologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à PHP à Paris. Est-ce que nous sommes égaux face au diabète ou y a-t-il des prédispositions chez certaines personnes?
Il y a sans aucun doute des prédispositions, à la fois pour le diabète de type 2 et le diabète de type 1. C'est deux sortes de diabète différents, mais dans le diabète de type 2, qui est le diabète qui survient surtout chez des patients assez âgés, avec un surpoids, il y a une énorme prédisposition génétique familiale. Il est bien rare d'avoir un patient pour lequel on ne trouve pas dans la famille des patients diabétiques. Pour le diabète de type 1, il y a une prédisposition, mais qui est beaucoup moins fréquente.
Pourquoi l'activité physique, c'est si important et tellement recommandé pour des personnes atteintes de diabète ?
Parce que c'est un moyen de faire baisser la glycémie. En fait, c'est assez simple à comprendre. Si on fait du sport, si on fait de l'activité physique, on va consommer parce que on a une activité, les muscles ont besoin de glucose et par conséquent, c'est un des moyens de faire baisser la glycémie.
Merci docteur Albron aujourd'hui dans notre émission Questions de femmes. Comprendre et prendre en charge l'anémie, véritable problème de santé publique chez les femmes en Afrique subsaharienne. Dépistage, carence en fer, maladies associées, alimentation. Comment prévenir l'anémie qui peut avoir des répercussions sévères sur la santé? C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel, à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Caroline Paré. Et puis santé toujours, des entrepreneurs de la filière bio ont alerté ce vendredi des effets sur leur activité des coupes dans le budget de l'agence bio, alors que démarre une vaste campagne de publicité organisée par l'agence pour les 40 ans du label AB, Agriculture Biologique. Le ministère de l'Agriculture avait annoncé mardi une baisse drastique de 15 millions d'euros du budget de l'agence bio, chargée du développement et de la promotion du secteur. C'est la fin de 24 heures en France. Merci à Fabrice Viollet à la réalisation et à Mickaël Ponge à la rédaction en chef. 24 heures en France, évidemment, que vous pouvez réécouter sur notre site www.rfi.fr. Dans quelques instants, Afrique Soir. Avant cela, évidemment, comme tous les soirs, on part à New York pour la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street.
Avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones cède 256 points et revient à 41 603. L'indice du Nasdaq chute de 189 points et finit à 18 737. Donald Trump a de nouveau semé le trouble sur les marchés en menaçant l'Union européenne de droits de douane de 50% et en outre en promettant de surtaxer les iPhones de 25%. Si ces téléphones ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Il n'est pas du tout certain que Donald Trump ait le pouvoir de viser un produit particulier avec des surtaxes à la frontière. Quant au calendrier des sanctions sur l'Europe, rien n'est précisé. Néanmoins, le climat d'apaisement dans la guerre commerciale n'aura pas duré bien longtemps. L'or, du coup, repart à la hausse, à plus de 3350 dollars l'once, ce qui est un signe de remontée de l'inquiétude. Le dollar faiblit et l'euro remonte à 1,1357. Le marché obligataire résiste. On voit le rendement du T-bond à 10 ans retomber à 4,51. Le baril américain de pétrole reprend près d'1% et se rapproche de 62 $. Outre Apple, dans le collimateur de Donald Trump, dont le titre perd près de 3%, d'autres grands noms de la technologie souffrent, Nvidia, Salesforce, alors que des valeurs défensives comme Coca-Cola, Procter & Gamble ou encore l'opérateur de télécommunications Verizon résistent. L'indice Dow Jones cède 0,6% aujourd'hui, le Nasdaq recule d'1% sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones et le Nasdaq auront chuté de 2,5%. Les cotations vont reprendre mardi à Wall Street, car lundi, Memorial Day, est un jour férié aux États-Unis.
Merci Pierre-Yves Dugas.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Apprendre aux jeunes en milieu rural à profiter des opportunités professionnelles de leur région au lieu de partir vers les grandes villes. C'est l'objectif du Centre Cœur Yakar au Sénégal.
Nous serons avec les élèves de ce lieu de formation qui associe agriculture, élevage et hôtellerie.
Un jour au village avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI. L'épopée des musiques noires.
David Jacob, bassiste du groupe de rock Trust, explore ses racines africaines avec le Yacouba Trio. Ce projet de jazz, influencé par ses origines martiniquaises et normandes, célèbre le multiculturalisme et l'héritage musical afro-américain en décuplant sa créativité. L'album With a Road est-il le premier pas vers une quête existentielle et culturelle? Découvrons-le dans l'épopée des musiques noires avec Joe Farmer, samedi à 13h30 TU.
RFI.